Voilà, la semaine passée, j'ai laissé 3 messages. Aucun n'est passé à l'antenne. Je suppose qu'il y a une sélection. Alors, Monsieur Mermet, c'est vraiment qu'un journaliste.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis. C'est Nicolas de Lyon. Je viens d'entendre votre émission, 7 millions de travailleurs pauvres. Et à un moment, vous avez évoqué le départ de Monsieur Bernard, je crois, PDG de Carrefour, qui est parti avec la coquette somme de 39 millions d'euros. Alors, c'est pas le seul, bien sûr, il y a d'autres exemples, mais c'est vrai que c'est absolument insupportable. Et ça m'évoquait, en fait, une petite phrase que j'avais juste envie de vous lire. Je vous l'ai dit, donc c'est « L'homme riche et opulent qui a fait fortune grâce à l'exploitation ou d'autres moyens discutables n'est pas moins coupable de vol que le voleur qui fouille une poche ou s'introduit dans une maison pour la cambrioler. Mais le premier s'est réfugié derrière une façade de respectabilité et a échappé au châtiment de la loi. Toute accumulation ou entassement de richesses au-dessus et au-delà de ses besoins légitimes est un vol. » Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'était une petite phrase de Gandhi. Voilà, merci, bon courage, au revoir.
J'ai été vraiment très heureuse d'entendre ce reportage cet après-midi concernant le livre « 7 millions de travailleurs pauvres ». Vraiment, je voudrais entendre plus souvent les candidats parler des richesses de la France, car l'argent, il est là, mais il faut savoir le prendre. Merci de votre émission et continuez, courage.
Bonjour Monsieur Mermet, je vous appelle concernant l'émission où vous avez invité Monsieur Cotta aujourd'hui, donc mercredi. Monsieur Cotta, mais je suis ravie qu'il en fait un livre sur les travailleurs précaires, mais je trouve son ton étonnant. Il faudrait que tout un chacun prenne une calculette avec les salaires moyens qui sont à 700, 800, 600 euros. Calculez si vous pouvez manger, dormir, vous habiller. Ceci représente 50-60% des salaires. Ce sont des gens qui sont autour de vous, ce sont vos secrétaires, ce sont tous les gens qui sont autour de vous, qui travaillent. Alors je suis moi aussi très étonnée de l'étonnement de Monsieur Cotta. Au revoir.
Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je suis caissière de supermarché. Enfin, j'ai une grosse bêtise, parce qu'on n'est plus des caissières. Nous sommes des hôtesses de caisse. Et de savoir qu'en ce moment, on est tous en pleine foire au vin, et que les caissières qui restent le soir, après les heures d'ouverture des magasins, pour accueillir les clients qui reçoivent un carton d'invitation spécial, eh bien, c'est du volontariat, mais du volontariat bénévole. Elles ne sont pas rémunérées et elles n'ont même pas à récupérer le temps qu'elles auront passé dans cette foire au vin. Voilà, c'est Viviane Poitiers. Au revoir.
J'appelle du 83 rue du Rouet de Marseille, quoi, en fait, chez les Chibani. Donc vous êtes devez être au courant de ce qui se passe au niveau des Chibani, enfin au niveau national en France, quoi. Et demain soir, on va essayer de faire encore un événement comme suite au 6 juillet où on avait commencé. Et j'aimerais bien que ce soit relié. J'essaierai de vous rappeler demain ou tout à l'heure, quoi. À bientôt. Ciao.
Les Chibani, c'est notre sujet du jour. Je vous l'avais promis hier. C'est surtout le film Les Indigènes qui suscite pas mal de messages de votre part sur le répondeur de la base J'y suis, qui nous a envie de retourner à Marseille, retrouver ces vieux travailleurs de l'immigration maghrébine pour l'essentiel et qui ont un sort pas très très enviable, caché un peu derrière les placards de notre prospérité, qui d'ailleurs bien souvent ont un sort qui est très proche des autres vieux travailleurs de notre pays. Alors nous, pendant ce temps-là, eh bien, on est toujours à Kaboul, en Afghanistan, je vous l'ai dit, on a voulu revenir sur nos pas. 5 ans après, souvenez-vous, la triomphale intervention de la coalition qui a chassé les talibans, qui a libéré Kaboul le 13 novembre 2001, et c'était des images de libération, et c'était des images d'espoir, souvenez-vous, nous étions tous américains, une fois de plus, nous libérions le monde, les femmes et les enfants d'abord, mais les femmes, vous vous souvenez, le grand cas qui était faite de cette libération des femmes, et puis en luttant contre le terrorisme, eh bien l'Occident libéral dans sa croisade allait apporter la démocratie et le développement. Eh bien, 5 ans après, on peut dire que la réussite n'est pas vraiment au rendez-vous. Si pour quelques-uns, ces 5 années ont été des années de prospérité et d'enrichissement parfois tout à fait obscène, pour la plupart des Afghans, eh bien, ce développement, ces aides diverses et variées qui sont tombées sur ce pays, ils n'en ont absolument pas vu l'ombre du début de la couleur. Et la colère s'accumule, les rancœurs et les frustrations s'entassent, les talibans sont de retour, ils s'appellent ACM, Anti-Coalition Militant, ce sont les troupes américaines, ce sont les troupes placées sous l'autorité de l'OTAN, on peut 40 000 hommes qui sont vus comme des occupants de la même façon que les ressortissants, les expatriés, les gens des ONG, etc. Tout ça, c'est dans le même paquet, c'est dans le même panier. C'est l'Occident. Il est bien difficile ici de faire croire à la démocratie quand la démocratie a le visage de Guantanamo ou d'Abu Ghraib ou des images qui parviennent d'Irak. Il est sûr que c'est pas facile de convaincre. En tous les cas, les Afghans sont de moins en moins convaincus, surtout, je le disais, dans les régions du sud, dans les régions pachtounes, frontalières du Pakistan, province du sud, qui passe sous le contrôle des talibans très organisés, qui multiplient les offensives, et chaque jour, l'insurrection se développe. Voilà, on va partir pour le Panjshir, le pays de Massoud, voir 5 ans après ce que cette belle région, magnifique région, est devenue. Et puis on vous racontera tout ça à notre retour. Pour l'instant, donc Marseille, les Chibanis, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour la Basse, si j'y suis. Latifa, Inès, Alioun, Mourad et tous les autres. Jusqu'à quand les reconduites à la frontière? Dans tout le grand sud-ouest, les rafles s'intensifient. Les centres de rétention sont pleins. Cela finira, mais quand et comment? Merci là-bas si j'y suis.
Bonjour, c'est Florence de Rouen. La semaine passée, nous avons eu une réunion avec une responsable de la CAF de Rouen pour nous dire que les centres sociaux de la Loire, gérés par la CAF, doivent être repris par des bénévoles en association. Cette personne nous a expliqué que le personnel qui y travaillait en 2004 continueront à être payés par la CAF jusqu'à leur départ. Après, cette association, l'association devra reprendre et se débrouiller pour financer les postes. Elle nous a expliqué aussi que les locaux devront être achetés pour un montant à définir, mais aux alentours de 90 000 euros. Sur la Loire, il existe 55 centres sociaux, dont 5 fonctionnent encore avec la CAF, mais qui sont eux aussi dans les mêmes perspectives. Depuis, j'ai discuté avec l'animatrice du relais d'assistante maternelle. Là aussi, la CAF se désengage. Les subventions vont se retrouver à la charge des communes et peut-être même en danger les services auprès des familles. Personne n'en parle, mais de nombreuses structures vont se retrouver en difficulté par ces suppressions de budget. Merci de rappeler tout ça. Le social est quand même quelque chose d'important. Il ne faut pas l'oublier. Au revoir, Daniel.
Bonjour, tout d'abord merci à toute l'équipe de La Basse, si j'y suis, pour cette émission essentielle. Et un message sur ce répondeur pour dire mon désarroi, ma colère, ma révolte. On nous a servi hier soir au journal télévisé de France 2 l'approbation par l'Assemblée nationale de l'article 10 sur le projet de loi sur l'énergie instaurant la privatisation de GDF. Et on fait quoi, nous les citoyens? On reste passifs parce que, bien sûr, c'est inéluctable. Mais enfin quoi? Il n'y a guère que la mort de chacun qui soit inéluctable. Pour tout le reste, tout est possible. Alors, où est notre engagement du non le 29 mai 2005? Il serait peut-être temps de le retrouver. À bientôt. Ciao.
Daniel, bonjour. Nouvelle grève des enseignants. Les parents vont être embêtés. Qu'est-ce qu'on va faire de leurs gamins? Ben oui, ben, nous, c'est aussi ce qu'on se demande. Quand on en a 32 dans une classe à qui on doit faire du français ou des maths, toute matière où on nous dit qu'il faut avoir un enseignement personnalisé. 32 élèves par classe, 2 heures par semaine, ça fait à peu près 5 classes, 6 classes, un peu plus, hein, parce qu'il y en a qui ont 3 heures de cours. Comment est-il possible de ne pas comprendre qu'il est impossible de faire de l'enseignement personnalisé dans ces conditions-là et que y a forcément au moins un tiers des gamins qui sont laissés sur le côté, un tiers qui se fait suer et puis à peu près un tiers qui trouve son compte. Il n'y a qu'à diviser une heure par 32, ça fait 2 minutes par gamin. Et quand on s'occupe 2 minutes d'un gamin, qu'est-ce que font les 31 autres? 20 élèves par classe, ça serait un minimum dans le primaire. Ça ferait 3 minutes par élève. Mais ça, je comprends vraiment pas pourquoi ce message-là ne passe pas. Comme aussi le fait que pour le primaire, s'il y avait 5 instituteurs pour 4 classes de 20-22, ça permettrait à l'instituteur de plus de prendre classe par classe les élèves qui ont un petit peu mal en français. Et puis, l'heure d'après ou la matinée après, ceux qui ont un peu de problèmes en maths ou en histoire. Et inciter les gamins à s'aider les uns les autres, c'est le minimum.
Bonjour à tous, donc c'est Eric de Gérardmer, c'est pour vous dire que le repère de là-bas si j'y suis aura lieu ce soir, donc jeudi, c'est le dernier jeudi du mois, comme tous les mois, à 20h30 au bar Le Grattoir, boulevard Kelch à Gérardmer. Voilà, bonne journée à tous et longue vie à là-bas si j'y suis. Ciao, bye bye.
Alors message aux habitants de la Dordogne, le point repère des amis de là-bas si j'y suis, on le trouve à Excideuil, au café resto Le Dracar. L'adresse est 12 avenue Gambetta. Le numéro de téléphone 05 53 62 96 20. Jackie et Frédéric vous donnent donc rendez-vous les 1er et 3e mardis de chaque mois à 20h. Et le prochain rendez-vous, c'est mardi 3 octobre à 20h. À bientôt. Au revoir.
C'est nous qu'on a fait ça. C'est nous qu'on a fait ça.
Tout ça là?
Oui, oui, c'est une sécurité. Je sais qu'on a fait avec la Grande Travaudres, ça s'appelle, l'entreprise. Il n'y a pas comme moi. J'ai travaillé, mais enfin, grâce à tout le monde. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont construit la France, et puis voilà, ils ont fait à l'état moderne, et puis voilà, maintenant, ils s'en foutent de nous. Et... T'as vu? Ils ont construit la France sur nous. Et maintenant, ils vont nous jeter comme les chiens. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est raisonnable? C'est la réalité. C'est la vérité. Et ça se dit.
Quoi vous pensiez, Amar? Vous aviez les yeux qui partaient au loin.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, exilé dès mon jeune âge, les Chibanis de Marseille.
Flight number 2, arriving from
New York. Abdelkader, moi j'ai 19 ans, j'habite dans le secteur de la Joliette.
Vous voyez, dans le quartier de Belzance ou à la Joliette,
ouais,
les vieux messieurs.
Tout ça, les vieux messieurs qui s'assoient, qui fument tabachiqué toute la journée, voilà, ils ont rien à faire, quoi. Personne ne s'occupe d'eux, personne n'essaie de leur rendre service, ils sont là, ils se démerdent eux seuls, quoi, en fait. Il y a personne qui les aide. Ils ne savent même pas qu'ils existent, en fait, à mon avis.
Ça met un peu la haine qu'on les voit comme ça, assis à rien faire. Et ça serait bien qu'ils leur trouvent un truc à faire, quoi. Une petite maison de retraite ou, je sais pas, des petits boulots, parce qu'ils n'ont rien à faire et ils pètent un plan.
C'est tous les jours, c'est un cycle, en fait, ça marche comme ça. Ouais. Comme les vieux, ils sont restés là pendant 20-30 ans, restés comme ça, j'aimerais pas que ça m'arrive aussi. On gueule plus fort parce qu'on parle français aussi. Ils parlent pas français, ils peuvent pas s'exprimer, tout ça. Ils peuvent dire, ouais, toutes les lois, ils connaissent pas. Ils n'ont pas fait beaucoup d'études ici à Marseille, en France.
On est là un peu illégal.
D'accord.
Montre-moi tes vieux, je te connaîtrai mieux. C'est à la place dévolue aux vulnérables qu'une société se mesure et peut se regarder. C'est à ce miroir-là qu'elle peut savoir qui elle est. Et par exemple, à la place attribuée aux anciens, aux vieux. On va pas dans le sens d'une bonne place pour les anciens dans notre monde, dans notre société, de compétition et d'inégalité voulue, dictée par l'idéologie néolibérale, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va parler des Chibani, de ces maghrébins venus dans les années 60-70, au cours des 30 glorieuses pour travailler ici et construire, participer à la construction, à la reconstruction du pays, dans le bâtiment, dans la sirurgie, dans les mines, un peu partout, et qui aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas rentrés au pays, qui vivent des vieux jours, ils sont à l'orée de leurs vieux jours, et c'est pas rose. J'hésite en disant l'orée de leurs vieux jours parce que ils sont plus vieux que les vieux. Ils ont fait des boulots très durs en général et ça use, ça fatigue et ils souffrent de nombre de pathologies dues à ces travaux très durs. On les met pas à part. Il y a beaucoup de travailleurs en France qui ont le même sort, qui connaissent le même sort que les Chibani. Il s'agit pas de diviser. Il s'agit pas d'opposer, en tout cas, évidemment, surtout pas opposer, mais de différencier quand même leur sort. Ils sont entre deux mondes, plus de là-bas et pas d'ici, et personne ne leur a dit merci d'avoir contribué à ce développement, à cette richesse, à cette prospérité, relative prospérité, mais tout de même, nous sommes jusqu'à preuve du contraire, un pays parmi les plus riches de cette planète. Nous avons donc une dette collective envers ces anciens, envers ces vieux immigrés, et c'est un sujet qui nous préoccupe depuis des années. Quand je dis « nous », c'est pas seulement la Basse Égypte, on a déjà fait des reportages sur ce sujet, mais c'est quand même nombre de Français, d'associations, de jeunes issus de l'immigration, le gouvernement, les services sociaux, etc., se penchent sur cette question et à quoi on arrive aujourd'hui. Alors, on est à Marseille, pas seulement parce que c'est la ville où habite Pascal Pascariello, mais parce que les Chibani sont plus nombreux dans cette ville, bien évidemment, qu'ailleurs, et que le sort qui leur est fait est particulièrement peu enviable à travers une disposition qui est prise par cette bonne ville de Marseille envers les Chibani. C'est une association qui s'appelle Le Rouet à cœur ouvert, qui milite pour la défense des droits de ces Chibani, qui a attiré notre attention, et pas seulement la nôtre, sur le sort de ces personnes âgées. J'ai dit les droits parce que je crois que le moindre des respects à avoir envers ces messieurs, la plupart sont des messieurs, presque exclusivement des hommes, bien sûr, c'est que ils veulent pas passer pour des victimes. Ça, s'il y a une chose qu'ils ne veulent pas, c'est passer pour des victimes et que l'on pleure sur leur sort. Il s'agit simplement de qu'ils soient dans leurs droits, tout simplement, et avec un minimum de respect, tout simplement, à cause de ce qu'ils ont fait dans ce pays qui est en grande partie le leur. Ils ne sont pas de là-bas, ils ne sont plus de là-bas, ils ne sont pas d'ici, ils ne sont plus d'ici pour la plupart, exilés des monts jeune âge, les Chibanis de Marseille.
Peut-on vivre en se répétant tous les matins qu'on aimerait bien, qu'il faudrait bien, que si les choses avaient été autrement, alors bien sûr la vie qu'on mène aurait été bien plus belle, plus confort et pourquoi pas bien plus, hein. Faire semblant comme si tout allait bien en attendant la fin de la journée ou de l'année. Quel est celui qui laisse passer, se contente de vivre dans l'illusion d'un bonheur qu'il consomme et la somme. Quel est celui qui laisse passer. Comment marcher avec assurance et prestance quand on traîne sur sa face les traits de celui qui n'a plus peur. Combien de temps peut-on vivre en espérant tous les jours que demain sera bien, si complice de la manœuvre on ne cesse d'alimenter la machine. Trancher bien sûr on y arrivera, mais faire l'amour, combien de temps cela peut-il durer quand d'échecs en défaite on finit par croire qu'on est vraiment le dernier des. Chaque matin c'est le grand jour, tombe la nuit, rien n'a bougé. Peut-être demain seras-tu celui qui décide enfin de ne plus laisser, de ne plus laisser filer ces années qui passent. Comment marcher avec assurance et prestance quand on traîne sur sa passe les traits de celui qui n'a plus peur. Tous dans le même sac, nous sommes tous dans le même sac. Tous dans le même sac, nous sommes tous dans le même sac. Difficile de s'extraire et passer la frontière. Ton histoire disparaît, tes repères sont éclatés. Tu es désormais paré pour le grand mystère de la vie et tes amis ne comprennent quel sera ton chemin car nul ne le sait. Comment marcher avec assurance et prestance quand on traîne sur sa passe vêtue de celui qui n'a plus peur.
Alors là, il y a les travaux juste à côté, au fait, ouais, hein, Amar.
Ils ont monté déjà les travaux à côté de nous. Ils nous laissent pas même pas dormir maintenant. Ils sortent bien après. Hein. Voilà.
Et donc là, ici, Amar, vous êtes locataire de l'hôtel qui est au Rouet.
Oui.
Vous êtes donc 34 dans cette.
Oui, on était, c'est-à-dire très nombreux aussi. Mais après, c'est-à-dire, bon, il y en a qui ont déménagé, il y en a qui ont parti, il y en a qui ont décédé. Et ils ont resté que les 34 personnes.
Et vous, ça fait combien de temps que vous logez ici, Amar?
Depuis 74, j'ai pas bougé d'ici. 74. De 74 jusqu'à ce jour, ici.
Alors, c'est plus un hôtel, c'est comme une maison pour vous.
Mais voilà, si vous voyez que c'est un hôtel, c'est un hôtel. Est-ce que vous, c'est un hôtel? Pour vous, c'est un hôtel, ça? Vous pouvez rentrer, si c'est un hôtel, vous pouvez rentrer.
Alors, ici, c'est votre chambre, hein, Marc.
Voilà.
Alors, montrez-moi un peu.
Oui, je vous montre, il n'y a pas de problème. Bon, j'étais là, mais...
Elles font combien de mètres carrés, les chambres?
À peu près, il va faire dans les 13 mètres, à peu près.
13 mètres carrés. Et d'habitude, vous habitez seul ou à plusieurs?
Oui, j'habitais seul, j'habitais à deux. Des fois, c'est-à-dire, ça dépend des jours. Petit coin de cuisine, puis voilà, il y a le frigo, et puis voilà.
Avec un lit.
Un lit, voilà. C'est tout. Voilà.
Des peintures qu'il faut peut-être refaire. Et il y a un lavabo. Est-ce qu'il y a une salle de bain?
Non. Il n'y a que lavabo. Il n'y a rien. Il a fait les douches, mais après, il a supprimé. Et l'eau chaude, vous voyez.
Il y a un tuyau, mais il n'y a pas de robinet au bout.
Ils ont supprimé. Vous voyez? Voilà. On n'avait rien du tout, que si nous qu'on se démerde. Et il n'a pas de meubles, c'est à nous tout. Ce que vous voyez, le frigo, il est à moi. La cuisinière, il est à moi. Le meuble que vous voyez, il est à moi. Les couvertures, il est à moi. Les draps, sont tous à nous. C'est pas noté, le meuble.
Vous vivez avec 418, donc, euros par mois.
Par mois? Est-ce que c'est logique? Hein? Je peux vivre avec ça?
Et combien vous donniez pour un loyer ici?
Le loyer, avant, on paye pas beaucoup cher, parce que c'est pour ça que nous sommes restés, parce que on paye pas beaucoup. 53 euros.
Est-ce que vous continuez à envoyer de l'argent pour vos familles, pour les aider?
C'est tout à fait normal. Si on fait pas les économies, c'est-à-dire, avec quoi ils vivent, mes enfants? C'est obligé qu'il faut qu'ils vivent, au moins. C'est-à-dire, bon, je fais les économies pour même pas pour 100 euros, je les envoie pour eux. Parce que j'ai des enfants qui attendent derrière moi. J'ai mes enfants, j'ai mes filles.
Donc vous vivez à peu près avec quoi, 300, 250 euros par mois?
À peu près, mais je fais le maximum. Hein. Et encore, bon... J'ai une fille.
Et combien d'enfants?
J'en ai 6. Et je suis un grand-père de 4 enfants. Et j'ai une fille, bon, il est en train de faire, c'est-à-dire ses études. C'est elle qui va les étudier. Bon, j'en ai 3 filles. La dernière, elle est mariée. Elle est née en 84, elle est mariée.
Vous n'avez pas des photos?
Et justement, je ne dis pas.
Elles sont où, ces photos?
Elles sont, je les ai ramenées au bled. Quand je suis parti la dernière fois, je les ai ramenées. Elles étaient avec moi, mais je les ai ramenées. C'était la dernière fois, j'étais pressé, mais voilà, je suis, bon. Qu'est-ce que tu veux?
Ne pleurez pas, Marc.
Qu'est-ce que tu veux? Je suis inquiet un peu. Loin de la famille, si.
Comment le gouvernement français traite les vieux travailleurs immigrés issus de la colonisation? Et ben voilà, vous avez déjà un petit aperçu de la façon dont sont traités les travailleurs, en tous les cas celui-là, Amar, qui vit dans cet hôtel meublé d'un quartier du Rouet à Marseille. Mais pour situer un peu les choses, voilà Sylvie Mselem, qui est chercheuse au CREOPS. Le CREOPS, c'est le Centre Régional d'Études et d'Observation des Politiques et des Pratiques Sociales. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle, le CREOPS. Ça a l'air d'être très savant. Mais voilà, ils fournissent des études précises sur les conditions de vie et la façon dont sont traités ces vieux travailleurs. Alors, bon, il y a un problème d'âge là-dedans. Hein, on me dit, mais quand est-ce qu'on est vieux? Parce que évidemment, on est toujours, quand on vieillit, on est toujours le plus jeune des vieux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un Shibani et à partir de quand on est vieux quand on est un Shibani? Sylvie Mselem.
L'âge que j'ai déterminé dans les travaux que j'ai faits, c'est plus de 55 ans, ce qui peut paraître jeune par rapport à ce qu'on appelle communément des personnes âgées. Mais ça peut se justifier par le fait qu'ils ont une espérance de vie plus faible. Du fait qu'ils vivent un vieillissement prématuré, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies lourdes du fait des accidents de travail, des maladies, etc., des conditions de vie dans lesquelles ils sont, qui font qu'on voit apparaître des signes de vieillissement assez tôt, quoi. Il y a les conditions de travail, hein, dehors, pénibilité des travaux, beaucoup dans leur parcours, quand tu les interroges, eh ben, ils sont tombés, ils sont amputés d'une jambe, par exemple. Et puis, il y a aussi, et c'est pas souvent évoqué, la santé mentale, c'est-à-dire liée à l'exil. Comment psychologiquement on va quand on a vécu un exil, quand on est dans ces conditions de vie? Donc voilà, il y a quand même des signes de dépression, hein, quand tu les interroges, pour certains en tout cas. On peut diviser la question en deux grands thèmes. En fait, c'est comme ça, moi, que je le perçois. On va dire qu'il y a tout ce qui est lié à leur propre parcours, qu'on pourrait voir rapidement, notamment par rapport justement à leur vie familiale, puisque là, on parle de personnes, hein, là, aujourd'hui, isolées, entre guillemets, c'est-à-dire qui vivent seules ou en foyer ou en hôtel meublé, donc sans leur famille. Pourtant, dans leur majorité, ils ont construit une famille au pays d'origine, hein, donc qui est restée là-bas, femme et enfant. Donc comment on vit seul ici en ayant laissé la famille au pays? Et puis, on va dire, il y a comment on prend en compte ce public pour offrir un meilleur accès aux soins. Donc là, c'est la société qui doit se poser ces questions-là, parce qu'apparemment, ils accèdent difficilement aux soins. Quand ils vont rentrer en grande dépendance, dans quelle maison de retraite ils vont pouvoir aller? Certaines maisons de retraite accueillent des personnes âgées immigrées. Donc, ce qu'on pensait impossible, Il y a quelques années, ça commence à émerger, donc il y a une adaptation. Maintenant, la question, elle reste ouverte.
C'est que effectivement, faut pas croire qu'on ne fait rien, que personne ne fait rien, que les associations ne servent à rien, que ces études et ce travail les témoignages aussi que ces Chibani peuvent donner, tout ça ne sert à rien. Effectivement, mais c'est comme toujours, les progrès sont beaucoup trop lents, surtout que là, il s'agit quand même de la vie de gens qui arrivent à un certain âge. Ils sont environ 90 000, ces Chibani, c'est-à-dire 90 000 maghrébins de plus de 65 ans vivant en France. Alors, ça serait parti en 63 000 Algériens, 20 000 Marocains et 7 000 Tunisiens, je le rappelle, qui sont donc venus à la fin des années 50, au temps des 30 glorieuses. Alors, comment aujourd'hui faire évoluer cette situation? Comment vivent-ils? On va voir. Les mesures, j'en ai parlé, on les verra soit aujourd'hui, soit demain, les fameuses mesures prises par les pouvoirs publics à Marseille. Mais continuons d'essayer d'installer un peu les premières données avec Sylvie Mselem du CREOPS.
Par rapport aux vieux immigrés, moi ce que j'ai pu remarquer, qui pointe, hein, c'est une tendance, c'est que lorsqu'ils vieillissent, donc seuls, qui commencent à être dépendants, ils souhaiteraient, en tout cas quand tu les interroges, faire venir leurs femmes du pays d'origine pour les aider à vivre. Donc, ils te demandent de faire une demande de regroupement familial en sachant que ça va être super difficile pour eux de l'obtenir parce que pour faire une demande de regroupement familial, il faut des conditions de logement, une superficie, plus des revenus. Donc, ils n'arrivent pas, du fait qu'ils sont dans les hôtels meublés ou dans les foyers, ils n'arrivent pas à obtenir ces conditions. D'autant plus que là, enfin, les critères sont encore plus restreints. Et en même temps, ils ont perdu leur place finalement dans la famille qu'ils ont construite. Donc en fait, ils sont un peu illégitimes aussi là-bas, en sachant qu'ils sont perçus pour certains comme des gens qui ont réussi quand même, puisque construction de la maison, puisqu'ils ont permis, en envoyant un pécule chaque mois pour certains, ben, de faire vivre toute la famille. Donc effectivement, ici, c'est difficile d'être seul, hein, parce que comment on légitime le fait qu'on soit parti, qu'on travaille plus maintenant puisqu'on est à la retraite, mais qu'on repart pas vivre là-bas. Il y a tout ce paradoxe finalement de l'immigration qui sont obligés, eux, dans leur parcours personnel, de régler. C'est-à-dire, je comptais venir ici travailler, repartir riche. Finalement, je viens ici, je fais pas venir ma famille pour certains, hein, y en a qui les ont fait venir. Je me retrouve seule. Le travail pour moi, c'est ce qui me rend légitime à avoir fait ce parcours. Je travaille plus, mais je reste quand même. Il y a de quoi avoir la tête un peu...
Et vous avez voté, j'ai entendu.
Hein?
Vous avez dit quoi dans la porte?
Ouais.
On avait beaucoup, hein. C'est toujours les mêmes.
Vraiment.
Depuis combien d'années?
Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça.
Vous avez les clés de votre maison en Algérie?
Pas ici sur moi. Je serai là-bas chez moi, oui.
Vous les laissez là-bas?
C'est normal, je les laisse là-bas. Je ne les porte pas avec moi. Moi, quand je pars là-bas, je m'occupe de mes problèmes, ce que je pense dans ma tête, de ma vie. Moi, je vois, c'est le mieux que je serai toujours là-bas. Le moment où je vais prendre la famille à faire un tour ensemble, on le fait. Si on a les invités, on va en famille. Si je vais sortir seul, puis je prends la voiture, je vais seul. Je connais des copains, des copines que je connais avant.
En Algérie.
Ils me demandent jusqu'à ce jour-là, depuis que je connais, ils ont des enfants et des petites. Mais moi, d'être le mieux là-bas, la voiture, je sors, je fais ce que je veux, d'aller loin. De voyager 300-400 kilomètres, je peux rentrer le soir, normal, tranquille, j'adore, oui, ici c'est pas pareil. Vous voyez où je suis? Bon, je suis parti à 8 ce matin, j'ai fait ma commission, je suis rentré, Maintenant, je vais faire mes précautions. Et après, je fais ma prière. Après. Je suis allongé, je regarde la télé, j'entends la radio. Des fois, j'entends la radio, des fois, je regarde la télé. Ce qui se passe, c'est tout. C'est mon seul. Bon.
Je me rappelle cette nuit d'orage, entouré de mon père et de ma mère, en exil dès mon jeune âge. J'ai préparé mes affaires pour mon premier voyage, m'exiler au-delà des mers. Je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher. Pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi je vieillis, rien n'empêche que je t'adore. Avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
Nous, les Algériens, on a le droit comme les Français. Parce qu'on n'est pas reconnu en Algérie maintenant, on n'a pas travaillé en Algérie. Tout le monde, ils ont travaillé ici. Comme par exemple, je vais rentrer demain en Algérie. Je ne suis pas reconnu là-bas en Algérie. J'ai travaillé ici. J'ai laissé ma santé ici. Je n'ai pas de cotisation là-bas. J'ai rien du tout. Je suis à zéro. Mais j'ai travaillé ici, je cotise ici, j'ai ma retraite ici, j'ai ma pension ici. Je suis reconnu par la France. L'Algérie, je ne suis pas reconnu. Celui qui veut rentrer, maintenant, il faut qu'il parte, c'est-à-dire avec leurs droits, carrément, et les soins, et leur caisse de la retraite, normalement, et point final. Bon, tiens, j'ai la carte trimestrielle. Je viens de le recevoir.
La carte d'invalidité. Oui.
Voilà. La preuve, elle est là.
C'est tous les trois mois, il faut la renouveler tous les trois mois.
Je vais la renouveler, et je le fais faire retourner à la caisse.
Voilà, toujours pas d'ici et pas tout à fait de là-bas, alors que Amar vit et surtout travaille en France depuis plus de 30 ans, hein, depuis 32 ans aujourd'hui. Il travaille comme beaucoup de ces Chibanis, donc ces 90 000 Maghrébins qui sont en France. On pourrait parler bien sûr des Africains d'Afrique noire, etc., mais aujourd'hui, on se consacre à cette heure au Chibani. Alors là, Amar vit dans un hôtel qui est rue Jean Alcazar à Marseille. Cet hôtel a été vendu, il va disparaître. Il a été vendu par la propriétaire, la Société d'économie mixte Marseille Aménagement, dont la ville de Marseille est partenaire. Et pourquoi ? Ben, vous vous en doutez bien, il y a un programme de modernisation de ce quartier pour parler pudiquement, c'est-à-dire que ce quartier du Rouet à Marseille, qui est un quartier populaire et ouvrier dans le 8e arrondissement, c'est-à-dire en plein centre de Marseille, et qui fait partie de Belzunce et des quartiers du centre de Marseille, on s'émerveille toujours, Marseille, ah là là, c'est formidable à Marseille, parce que le quartier populaire est resté dans le centre de la ville, et ben ça va de moins en moins vrai, comme ailleurs. le centre-ville va devenir une vitrine pour une catégorie sociale élevée, de classe moyenne, et puis les modestes et les vulnérables se retrouveront à la périphérie. On choisit ça en pensant que voilà, il faut une vitrine au centre de la ville et que c'est ça qui va faire qui va donner envie à tous de s'enrichir. Ça a quand même été théorisé comme ça dans les années 70, et on connaît les résultats de ces ségrégations spatiales, hein, urbaines. On en connaît les effets. Faut-il penser un peu à ce qui s'est passé au mois de novembre dernier, les fameuses émeutes, et qui ne sont pas sans lien avec le sort qui est celui de ces Chibani. On a trop dit qu'il n'y avait pas de cause à ces violences et à ces émeutes. Le sort de ces hommes âgés qui sont évidemment, s'ils ne sont pas forcément les parents des jeunes de banlieue, ils sont au moins des modèles et des références pour eux, et on peut trouver là, dans le sort qu'il aurait fait, des explications à ces violences. Donc, visite de l'hôtel d'Amar et des autres Chibani de la rue Jean Alcazar à Marseille.
Et ça, c'est quoi comme arbre ?
Un figuier, celle-là, c'est nous qu'on a fait.
C'est vous qui l'avez mis ?
Oui, c'est nous.
Il y a deux toilettes, donc dans la cour, en hiver...
Vous savez, en hiver, pour descendre, c'est-à-dire en hiver, hein, avec le froid qu'il y a, c'est... Avant, où il y avait du monde, c'est-à-dire plusieurs personnes,
ouais.
Vous voyez là ?
Oui.
Ils étaient six personnes ici.
Six personnes dans six cette personnes. Petite pièce, alors c'est une petite pièce qui est en dessous une cave.
Oui, c'est une cave, oui. Voilà, il y a des habitants ici.
Vous venez pourquoi ?
C'est pour la désintoxication. Il y a un propriétaire.
Le propriétaire a vendu à la société marseillaise aménagement et qui maintenant veut les expulser.
Ils ont retrouvé des logements, j'espère.
Non.
Ah ouais ?
Ouais.
C'est un délai, sans rien ?
Rien du tout. On est toujours en saisie, en justice, et on attend toujours.
Ils attendent le jugement.
Une horloge, quoi. C'est le minimum, ça.
Normalement, oui.
Ah ben c'est courant de savoir que là, c'est des personnes comme ça. C'est sûr que quand je vois le monsieur, là, je pense à mon père, hein, il a travaillé ici, il a tout fait ici. Et quand je vois à la fin comment on le remercie, ça donne pas envie de... Parce que je suis sûr, s'il s'appelle Jean-Paul ou Fujerski, oui, madame, c'est certain.
Vous, votre père, il est né où
obligé, comme il faut, pardon.
Il est pas né à Marseille,
votre... Non, mon père, il est de Tunis. Il est venu ici pour travailler. Bon, moi, j'ai grandi ici. C'est sûr que quand je vois ça, je suis dégoûté, hein. Forcément que mon père, il a fait la maison au Bled.
Votre père, il est reparti au Bled ?
Ah, il est reparti pour la retraite, mon père. Je veux dire, ici, là, on vit dans un HLM. Je veux dire, pour nous, c'est petit. Donc, on retourne à la maison. Il n'y a pas tout le monde comme mon père. Je veux dire, il y en a beaucoup qui sont ici. Donc, regardez, ça ne se fait pas. Ça me dégoûte. Parce que je le sais que moi, je fais beaucoup Marseille. Je sais qu'ils feront pas ça à tout le monde. Ils savent à qui le faire. Ils sont comme moi. Je veux dire, ce n'est pas français de Louis XIV. Hein. On est tous immigrés de quelque part. Hein. Je veux dire, on est ici, maintenant on est accepté, on n'est pas accepté. C'est malheureux. Maintenant, bon, on va dire que c'est... moi, je pense que c'est ça. Hein. On n'a pas les preuves. Hein. Mais maintenant, je suis sûr que s'il s'appelle Robert ou Jean-Louis, il aura retrouvé le logement tranquillement sans que ça se passe. Hein. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie de le reloger, on n'a pas envie de s'en occuper. Voilà.
Et bonne journée. Monsieur.
Merci.
Bon courage. Hein.
Allez, merci.
Et vous, vos parents, ils faisaient quoi, Marc ?
C'est-à-dire mes parents, bon, mon père, je le sais, c'est-à-dire pendant la guerre, quand je suis né, c'est-à-dire après, il a travaillé avec les Français, et puis il est devenu commerçant, et il est décédé en 65. Ma mère, elle était décédée en 56-57.
Et votre mère, elle est morte comment, si c'est pas indiscret ?
Elle était morte, c'était pendant la guerre, c'était en 57. Elle était enceinte, et puis comme, c'est-à-dire, l'armée française, ils sont venus, c'est-à-dire, bon, on était dehors dans la campagne, comme il avait pris une choc, une peur, et bien, avec l'accouchement, il est décédé. Après, c'est-à-dire, là, il y a eu quelque chose de l'intérieur, comme hémorragie, il est décédé. Je connais des gens qui sont massacrés, beaucoup, il y en a qui sont morts, et après, on est revenu, c'est-à-dire...
Ah oui, c'est celui que j'ai visité.
Ah bon ? Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ça va ? celle qui travaille aux impôts, là. C'est pour ça que je dis un bonjour, parce qu'une fois, à chaque fois, je vais respecter ma feuille d'imposition. Je vais te montrer, parce que si on va passer à les endroits où j'ai travaillé, la journée, ce sera... Hein, j'ai travaillé à Lumini, j'ai travaillé au Prado, j'ai travaillé à Bonneville, j'ai travaillé à la Pointe-Rouge, j'ai travaillé vers Chartres, j'ai travaillé à la Timone, à l'hôpital même, j'ai travaillé à Saint-Joseph à l'hôpital, j'ai travaillé au Rouy. Le plus important, c'est celle du rond-point du Prado.
Allez, on va au rond-point du Prado, alors. Alors, attendez, on va ouvrir parce qu'il fait chaud, hein.
Oui.
On va étouffer, attendez.
Il faut mettre le contact.
Voilà.
C'est bien, impeccable.
Façon on parle et vous conduisez. Ça, c'est drôle, ça. C'est quelque chose de drôle, ça.
Est-ce que vous vous rappelez, Amar, du premier jour où vous êtes arrivé en France?
Oui, oui, bien sûr.
Vous pouvez me raconter?
Le premier?
Oui.
Mais le premier jour de l'arrivée en France, je suis arrivé le 5 mai 69.
5 mai 69?
5. Ça fait combien? Ça fait 40 ans bientôt.
40 ans.
Mais j'avais décidé de venir, c'est-à-dire en France, pour travailler, c'est-à-dire pour gagner un peu de l'argent, pour je fais ma situation, et j'ai pensé de retourner au bled.
Donc c'était temporaire quand vous êtes venu?
Oui, temporaire. Maintenant, je suis un grand-père de 4 enfants, le premier né a 4 enfants.
Vous êtes grand-père?
Grand-père, oui, de 4 enfants, voilà, grand-père. Hier, j'étais jeune, un petit gamin, et le temps, ça passe vite. Maintenant, j'ai 60 ans, et j'ai dit, c'est pas possible, comment le temps est passé vite, tout de suite, j'ai 60 ans, et voilà.
Quand on parle de vous comme d'un Chimani, est-ce que vous le prenez bien ou pas, cette expression?
Ce sont des Chimani, c'est-à-dire c'est des gens qui sont âgés. Vous voyez ce que je voulais dire? Voilà, je suis à l'âge de... Troisième âge, les Chibanais, les vrais Chibanais, c'est ceux qui sont quatrième âge, c'est-à-dire ceux qui ont dépassé les 70 ans. Mais moi, je suis dans les troisième âge, je ne suis pas tout à fait Chibanais. Je considère que je suis encore jeune. Non, je vous fais rire, hein. Non, mais je plaisante. C'est vrai, on a des cheveux blancs, c'est des Chibani. Moi aussi, j'ai des cheveux blancs, ça veut dire, c'est-à-dire que je suis dans le chemin du Chibani. Je suis dans le chemin du Chibani.
Dans le chemin du Chibani et dans les quartiers de Marseille ou Amar, non sans une certaine fierté, montre à notre Pascal Pascariello ce qu'il a construit et ce pourquoi la France oublie de leur dire merci.
Bon, le bâtiment que je vous dis, c'est celle-là.
C'est lui, là? La Grande Tour?
Oui, la Grande Tour.
Ouais.
J'ai travaillé là, avec l'entreprise qui s'appelle Entreprise Georges Lavie. C'est elle qui a fait toute cette surface.
D'accord, qui a fait toutes les tours, parce que là on est sur une place où il y a des grandes tours, des grands...
La grande tour, c'est celle-là. La plus grande bâtiment, c'est celle-là. Il y avait, je crois, il y avait 32
étages. 32 étages.
Je crois, hein, je pense. Et après, je me suis déplacé, c'est-à-dire ailleurs. J'avais changé de boîte. Il y a Gagnero, j'ai travaillé avec lui. J'ai travaillé avec Bruno Rosta, c'était aussi connu. Travaux du Midi, c'est connu. J'ai travaillé à la Pointe-Rouge avec Travaux du Midi. La Grande Travaux de l'Est aussi, j'ai travaillé à plusieurs chantiers, c'est-à-dire sur le chemin de Mazar.
Quand vous arrivez, vous avez un contrat déjà ou pas?
Quel contrat?
Un contrat de travail ou quand vous arrivez en France?
On a aucun contrat, c'est-à-dire on est venu avec la carte main-d'œuvre, c'est ça d'accord, le contrat qu'on est arrivé.
La carte main-d'œuvre?
Oui, la carte main-d'œuvre, il s'appelle. C'est avec la main-d'œuvre qu'on est venu. Ça veut dire c'est spécialement, on est demandé par la France pour venir avec un contrat, avec la carte de la main-d'œuvre.
Et comment on fait pour obtenir la carte main-d'œuvre?
La main-d'œuvre, il faut faire la demande, c'est-à-dire là-bas en Algérie, tu fais la demande et puis tu attends, il te fait faire la visite médicale. Et après, c'est-à-dire, dit que vous êtes en bonne santé, il vous envoie. Je suis mal organisé, c'est-à-dire comme je n'ai pas de femme ici, vous voyez. Comme on dit, nous, c'est-à-dire, on dit la santé d'abord. La deuxième, c'est quoi?
L'amour.
L'amour. Et après, l'argent. Voilà, il faut vivre avec une femme. Moi, j'ai voulu faire venir ma femme avant, quand j'étais jeune. Je voulais faire venir.
Et pourquoi vous l'avez pas fait d'ailleurs, Amar?
J'ai pas voulu parce que j'ai dit bon, si je vais le faire venir, parce que peut-être il y a mes enfants qui vont venir ici, après ils vont partir droite à gauche, et après, ou est-ce que j'avais pas?
Vous aviez peur que vos enfants en France ils fassent des bêtises?
Voilà, ils font des bêtises, après ils vont, voilà, comme tout le monde.
Mais elle s'appelle comment votre femme?
Fatma.
Fatma. Et vous l'avez aimée, Fatma?
Oui, avant, oui, on s'entend bien, mais maintenant, ça commence à faire des trucs... ça, on va rentrer dans les choses trop profondes. Ça fait honte de dire ça.
Comment ça se passe? Expliquez-moi, parce que vous avez deux vies.
Oui, nous avons deux vies, mais ici, vous savez bien que je suis ici en France, et je vous dis, ça fait combien depuis 69? Moi, je vous dis franchement, bon, j'en vis. De sortir, de s'amuser. Ça me fait quelque chose dans mon cœur. Mais j'ai jamais fait une maîtresse, jamais de ma vie, depuis que je suis arrivé en France. Croyez-moi.
Et c'est quoi qui vous en a empêché le regard des autres?
Ça me dire.
Parce que, par exemple, quand je vous ai vu à l'hôtel, quand vous êtes tous ensemble, entre hommes, on se dit, tout le monde peut juger l'autre, ça doit être difficile.
Difficile d'avoir une femme avec voilà devant si tu l'entends, c'est vrai. Mais heureusement, c'est la vie. C'est nous qu'on a fait ça. C'est nous qu'on a fait ça.
Tout ça là?
Oui, c'est une sécurité. Je sais qu'on a fait avec la Grand Travaux de l'Est, s'appelle l'entreprise. Il n'y a pas que moi. J'ai travaillé, mais enfin, grâce à tout le monde. Ceux qui ont travaillé, ceux qui ont construit la France, et puis voilà, ils ont fait à l'état. Moderne, et puis voilà, maintenant, ils s'en foutent de nous. T'as vu? Ils ont construit la France sur nous. Et maintenant, ils vont nous jeter comme les chiens. C'est ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est raisonnable? C'est la réalité? C'est la vérité? Et ça se dit.
I'm الجبل اللقب النوار
انا وغزالي يا ليلى انا وغزالي في الجبل اللقب النوار انا وغزالي يا ليلى انا وغزالي في الجبل اللقب النوار
يا حبيبي شاني في مشعل القار ولا لا وانا وغزالي في الجبل اللقب النوار انا وغزالي يا ليلى انا وغزالي في الجبل اللقب النوار.
Merci à Amar Zeguidour, à Sylvie Mselem du Créops et à Michel Pirotina. C'était un reportage de Pascal Pascariello pour l'émission « Là-bas si j'y suis » de Daniel Mermet. Et ce soir, pour soutenir les Chibani et s'opposer à l'avis d'expulsion prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône, une soirée est organisée par l'association Le Rouet à cœur ouvert. C'est à partir de 17h au 24 rue Jean Alcazar devant l'hôtel des Chibani dans le 8e à Marseille. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Clément Léotard. Cette émission a été réalisée par Yann Chouquet et Koyen Guyen. Et le chef du répondeur est Christophe Imbert. Vous pouvez laisser vos messages sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 37 37. France Inter, il est 16h. Vous retrouvez Claire Sarbajon pour les informations.